Bon, Max, comment vas-tu?
Comment ça va, Big?
Ça va, Big. Hey, faut-tu que je me book un parking en double sur le bord de Ville-Marie demain pour le rap de Gervais, pour le Super Bowl, ou ça va être correct? Pas besoin de juge dans cette affaire-là?
Ouais, on a besoin d'un juge.
Tu peux le faire au téléphone, si tu veux. Là.
J'étais au téléphone, autre fois en double sur Ville-Marie.
Moi, je sais.
Ouais, tu seras en double. Il va le faire live. Il va le faire live.
En tout cas, si vous voulez m'appeler, vous m'appellerez. Mais ça va être plus facile de juger Gervais que notre bon chum, Freddy.
D'ailleurs, t'as parlé à Freddy.
Oui, ouais, il m'a écrit, il tenait à me mentionner que c'était pas un challenge, que c'était pas... moi, je me sentais mal quand j'ai dit que c'était pas exceptionnel son rap. Fait qu'il m'a écrit, puis il dit « Sens-toi pas mal, j'ai envoyé ça à Georges pour le fun. » Il dit « C'est lui qui a inventé le beef, puis que je voulais vous battre. » Il dit « Je vous arrive pas à achever, vous êtes vraiment cool. »
Je te l'ai admis en nombre. Tu me l'as demandé en nombre si j'en ai mis.
C'était son premier avis, Freddy. Fait que Freddy, bravo.
Oui, c'est son premier rap à vie. Fait que, tu sais, moi, mon premier rap à vie, je l'ai chanté à personne dans ma chambre. Fait que lui, il l'enregistre puis il l'envoie en onde. Deux points pour le courage.
Exact.
Parle-nous des cartes d'écoute hier, Big.
Je viens juste de recevoir ça. J'allais les tweeter. Je vais les tweeter après le segment dans votre émission. Je sais que c'est des matchs à 22h30. Contre les Sharks, on est allé à 310, 312, 314 000. Moyenne à la minute. C'est quand même correct pour un match dans l'Ouest. Mais hier, on a fait à peine 260 000. Je sais que le match est tard, mais c'est quand même un match du Canadien sur les ondes de RDS. C'est un des très petits chiffres des dernières années. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque chronique ou prêt, je vous lance une cote d'écoute quand c'est intéressant. Début de l'année, on était bas, là. Écoute, on est allé dans le 275, 300, 350. Le Canadien s'est mis à gagner. On allait dans le 500, 550, 560. Et là, on recommence à perdre, on recommence à avoir une équipe qui enligne les défaites et on avait seulement 261 000. C'est des chiffres qui, oui, vu que c'est dans l'Ouest, ça stresse pas trop les directeurs de programmation et les directeurs de ces stations-là, mais c'est inquiétant. Il va falloir absolument que ça remonte parce que c'est pas rentabilisable des chiffres comme ça.
Là. En même temps, tu sais, je me dis, puis là, je spécule, là, puis c'est une hypothèse. Si t'as regardé le premier match puis que t'as pas été impressionné parce que ça, tu sais, je veux dire, c'est à tout prix au Canadien de Montréal de battre les Sharks, tu vas pas te coucher deux jours en ligne à cette heure-là dans une semaine pour pas être magané. Fait que peut-être que t'as regardé le premier puis pas le deuxième.
Deux en deux, puis en plus, tu sais, comme le match commence, puis assez rapidement, on tire encore de l'arrière, puis on voit qu'on reviendra pas ce match-là. Fait que ça s'explique quand même, mais c'est inquiétant parce que je te rappelle, là, les chiffres, quand on commence à la fin des, au début des saisons, là, on vise des 450-500, on vise pas 260. Fait que c'est inquiétant quand même.
Je comprends. Là, t'as une question pour Georges?
Ouais, exact. J'ai regardé le début de match hier, OK? Puis j'écoutais le coach après. Là. Ça fait 12 matchs de suite qu'on tire de l'arrière dans les matchs. On sort flat en début de rencontre. On a été chanceux parce que pendant un mois, on était capable de faire des comebacks puis des remontées. Là, on n'est plus capable. Le coach, après le match, dit que ses joueurs doivent se regarder, ils doivent en donner plus. Puis on le voit de notre œil, là, chez nous, on le voit que l'équipe commence mal ses matchs. C'est 12 à 1 les tirs après quelques minutes. C'est la faute à qui, Georges? C'est-tu le coach? C'est-tu le capitaine? C'est-tu les jeunes qui suivent pas? C'est-tu les vétérans qui montent pas le chemin? Il y a un problème. On peut pas commencer mal nos matchs comme ça. C'est la faute à qui?
L'affaire, c'est que quand tu as un leadership dans une équipe, c'est eux autres dans un match qui donnent le ton. Qui donnent le ton spécialement sur la route. Suzuki, c'est un bon capitaine, mais c'est pas un joueur qui donne le ton. Tu comprends? C'est pas un game changer. Un gars qui... Tu sais, Gallagher, dans son prime, là, c'est ça qu'il faisait. Il donnait le ton... Il donnait un but, il allait au net, faisait quelque chose. Puis là, après ça, le monde était tout inspiré. Quand vous regardez l'équipe, Gonzo, je te pose la question, Max, quel joueur vous regardez sur la route hier qui est comme, pour s'assurer de gagner, là, qui a donné le ton, qui a fait quelque chose, que les gars se sont inspirés, puis le momentum est parti là-dessus? Qui fait ça? C'est qui le game changer player dans cette équipe-là en ce moment? Voilà la réponse à ta question.
Je suis poli, je laisse Gonzo répondre.
Vas-y, Big.
Voici ma réponse. Le silence.
Puis c'est ça, Max. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un gars sur la glace, parce que c'est bien beau les paroles, le monde parle après. Mais quand tu regardes une game, t'es sur la route, puis surtout quand une équipe a un momentum de l'autre côté, puis tu faisais lancer des buts, c'est qui le gars qui peut se lever, puis avec une présence, va inspirer ses coéquipiers à se défoncer, puis c'est là qu'un momentum, après ça, que là, le prochain trio suit, puis là, l'autre suit, puis là, l'autre suit. Ça part d'un gars. Mais c'est qui le gars qui s'allie, qui va au net, qui inspire ses coéquipiers à se défoncer pour après ça, tu gagnes la game?
Pis c'est facile de suivre, hein? Quand ça va bien, c'est facile de suivre un wagon qui va du bon bord. Puis quand ça va mal, ben c'est dur de leur virer de bord, fait que c'est facile de suivre. C'est qui lead? C'est ça la question, puis il n'y en a pas. Mais tu sais, est-ce que le coach prépare bien ses joueurs? Est-ce que c'est les
pas
vétérans?
C'est pas la faute au coach. Le coach deal avec les éléments qu'il y a. Il ne peut pas créer des éléments. Il fait ce qu'il y a, ce qu'il y a là. Puis regarde l'année big. Je veux dire, regarde l'année.
Ah non, les gars se prime ensemble, ça marche pas. T'sais, ils ont beau crier dans le corridor, là, on l'a vu le cri. Là, rendu ça à glace, ça, c'est comme s'il y avait tout laissé dans le
corridor. En haut de la liste d'épicerie pour cet été, c'est du caractère. T'sais, on a beaucoup de gentils garçons, on l'a dit. Là, on a beaucoup de gars que j'aimerais ça qu'ils sortent avec ma fille quasiment. Là, c'est des bons gars, ils sont fins. Mais en haut de la liste d'épicerie, il faut vraiment qu'il y ait du caractère ajouté à ce club-là cet été.
Ouais.
Entre autres, on a nommé le nom de Liney. Est-ce que tu as un quelque chose à nous dire sur le fait, c'est quand que la chaîne a débarqué ou?
Ouais, ben je regardais, j'essayais d'analyser, tu sais, il est décevant le Liney, on fera pas un gros segment là-dessus, il y en a eu 20 cette semaine déjà. Tu sais, il a joué, c'est le gars qui a été le moins utilisé. Il y a 12 buts cette année, il y en a 10 en power play, il y en a un à 3v3. Ça fait qu'il n'y en a rien qu'un à 5 contre 5. C'est pas assez, on est d'accord. C'est un rythme de 3 par saison. S'il jouait 82 matchs, il y aurait 3 buts à 5 contre 5, c'est inacceptable. Ce qui est marquant, c'est que quand tu regardes ces matchs un par un, dans ses 9 premiers matchs, il a fait 9 points. Il a fait 8 buts. C'est quasiment un but par match. Et depuis, il a 4 buts en 17 parties. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 9 premiers et les 17 autres? C'est la fois qu'il a ouvert la bouche à Columbus.
Oh, c'est vrai, t'as raison.
En critiquant ses anciens coéquipiers, il a quitté le match. Il a seulement marqué 4 buts en 17 parties depuis. Ouais. Il s'est absenté pour un virus qu'on a tous remis en question. C'est une hypothèse, on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé cette journée-là. Les chiffres le prouvent. Et ça serait le fun d'avoir la vraie version. S'il y a des journalistes sur le beat qui nous écoutent, s'il y a des gens qui ont accès aux joueurs, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu ne peux pas marquer un but par match, tomber à 4 en 17 après. Il y a quelque chose cette journée-là. Puis comment il se sent depuis? Puis comment on va faire pour sortir de ça? Parce que c'est plus le même joueur depuis ce jour-là.
Là, parlez d'une proposition de transaction alliant une rumeur et un joueur décevant.
Je vous écoutais hier, on parlait de Dylan Cousins qui est disponible. Il a été lié au Canadien par Kevin Weeks. Il y a des intervenants à BPM Sport qui disent qu'ils échangeraient Kirby Dach contre Dylan Cousins. No shit, Sherlock, on échangerait tout Kirby Dach contre Dylan Cousins.
Pas George.
Bah, come on, George.
Non, George voulait pas hier.
Je le sais, mais il a dormi. On prend toujours, tu sais, moi, j'ai une règle dans ma famille, big, il dort une grande
big,
nuit. Là.
Non, Big, moi, les projets, je t'annais.
T'as changé.
Les projets, là, je t'annais. Je veux du concret. Ça, pour moi, c'est pas du concret. Mais vas-y, continue.
OK, fait que ton projet DAC, qui est pas du concret, contre un autre projet, si t'échanges DAC, c'est contre quelque chose de certain, personne va te donner de quoi de certain, à part un certain gars de quatrième ligne.
Non, non, c'est Big, DAC... Les sables ne veulent pas. Là.
Georges, en fait, là, ce qu'il veut, il veut un deuxième centre. Fait qu'au pire, là, Dach, on le sait que c'est pas un centre, là, ou presque pas. Mets-le à l'aile, ça a deux avec Demidov. Trouve-nous un centre joué dans le milieu.
OK. Ma question. Okay, je regardais Slav jouer hier. Là, je te rappelle, le Canadien est l'équipe qui a le plus de marqueurs de 10 buts dans LNH. Ils en ont 9. Puis Slavkovski n'est même pas dans ces 9-là. Puis il joue sa première ligne avec les deux meilleurs gars de l'équipe sur le premier power play. Si c'est Slav qui demande pour Cousins, tu dis-tu oui? C'est pas une rumeur, c'est une question.
Ben, moi, c'est sûr que non, là.
Non. Ben, ça dépend, c'est contre qui?
Contre Cousins. One-on-one. Slav Cousins.
OK, Slav contre Cousins? Ben, ouais. Non, c'est un nom catégorique.
Pourquoi?
Ben, parce que, de un, je veux dire, c'est celui que t'as repêché, c'est celui que t'as identifié, puis t'as besoin de cet attaquant-là en puissance qui va être très bénéfique pour toi pour la suite des choses. T'en as pas deux comme Slav non plus à Montréal, là?
OK, Dylan Cousins, c'est un joueur de centre.
Oui.
C'est un gars qui a connu des saisons plus productives que Slavkovski.
Ouais, une saison, 31 buts, 68 points.
Oui, c'est un gars qui n'est pas tant bien entouré. C'est un gars qui a à peu près la même production que Slavkovski cette année et l'année passée. One-on-one, tu dis non.
Moi, je dis non.
Même si c'est un centre droitier. Mais ouais. Bref, ma question, vous croyez encore Slavkovski?
Moi, oui.
OK, vous avez le droit.
Georges moins.
Moi, pas mal moins.
Mais tu crois pas tant au projet puis Cousins, tu veux des joueurs certains. Hey, je t'amène sur un autre stat parce que je perdais bien du temps à regarder des colonnes de stats. Là.
Okay.
Je regardais, tu sais, on a parlé des transactions Dach contre Romanov.
Ouais.
Je regardais les Islanders aller. Tu sais, Roy, il allait nulle part. Il y a peut-être l'équipe qui a le moins de talent de toute la ligue. En tout cas, dans l'Est, c'est probablement l'équipe qui a le moins de talent. Puis il y a une fiche de 8-10 à ces deux derniers matchs avec les Islanders. Je regardais le joueur le plus important des Islanders pendant cette run-là. C'est probablement Alexander Romanov. C'est un gars qui, depuis qu'il est là-bas, a une vingtaine de points par saison, plus 13, plus 23, plus 9. Mais en ce moment, là, ses cinq derniers matchs, il joue entre 25 et 32 minutes, puis il joue presque pas sur le power play. C'est le premier défenseur gaucher. Il est pogné avec Tony DeAngelo à côté de lui, puis il gagne 2,5 millions de dollars. On avait déjà rangé cette transaction-là, Dak Romanov, comme quoi Romanov ferait rien de bon, puis Dak serait peut-être notre futur premier centre. Je voulais juste dire que Romanov est extrêmement intéressant et important en ce moment avec les Islanders, puis que je ne sais pas si Romanov n'est pas un joueur plus important que Kirby Dak en ce moment dans la LNH. Bref, des fois on range, tu sais, on met des crochets à côté de transactions très très tôt, mais quand les années passent, on n'est plus certain de ce qu'on pensait d'une transaction.
Ouais, il faut faire attention avec les transactions comme ça. Des petites nouvelles maintenant sur le futur à court terme de trois gardiens de l'organisation.
Ouais, j'ai parlé à quelqu'un qui est près des gardiens. Fait que j'ai essayé d'avoir de l'information chez quelques gardiens de l'organisation du Canadien. Jacob Fowler s'en va en finale du Beanpot la semaine prochaine. C'est un tournoi avec les quatre universités de la région de Boston. Et le plan, il n'y a personne qui va tomber à terre. Le plan, c'est vraiment de le faire tourner pro à la fin de la saison. Quand on regarde le calendrier de Boston College, même s'il se rend jusqu'au bout, puis au Frozen Four, puis même s'il gagne, puis qu'il va jusqu'au bout du hockey universitaire américain, il va lui rester deux matchs qu'il pourrait jouer à Montréal ou trois avec le Rocket, dépendamment quel type de contrat on lui donne. Donc, Fowler, on devrait vraiment le voir au Québec en fin de saison. Jakub Dobesch, on évalue en ce moment la possibilité, non pas de le rétrograder parce qu'il est pas bon, non pas parce qu'on veut donner une chance à Kaden Primeau, mais tout simplement que si le Rocket fait les séries, c'est une option de reprêter Dobesch à Laval pour qu'il y ait des matchs significatifs parce qu'il n'y en a pas ou il n'y en aura plus à Montréal dans le contexte actuel. Et Kaden Primeau, Georges, tu m'as volé l'information que je voulais dévoiler, mais même s'il y a une fiche de 9-0, même s'il est le gardien du mois de janvier, on m'a dit qu'il n'y a aucun plan pour lui à Montréal. On a tourné la page et on regarde ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il viendra pas gauler un match à gauche ou à droite ou qu'il restera pas avec le Rocket pendant un certain temps. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'on a vraiment tourné la page avec Kaden Primeau.
Demidov Big, un autre point, puis au sommet des espoirs de Scott Wheeler.
Ouais, exact. Autre point aujourd'hui, Demidov. Je sais pas si le match est terminé. Il l'était pas quand j'ai préparé ma chronique, mais c'est super intéressant. Scott Wheeler a droppé sa liste des meilleures équipes de la LNH au niveau des espoirs. On était 10e l'année passée. On vient de passer au 3e rang. On va connaître les deux équipes devant demain puis après-demain. Mais Demidov est bien entendu le meilleur espoir du Canadien. Il est dans une catégorie à part. Il a fait des A, B, C, D. Donc Demidov est notre espoir A, un des meilleurs espoirs de la LNH. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est 2, 3, 4, 5. Dans l'ordre, c'est Fowler, Reinbacher, Age et Mayu. Et c'est là que je veux terminer ça. Les gens ont vu hier 19 recruteurs sur la passerelle à Los Angeles. Et souvent, bon, on va dire, c'est pour Jake Evans, c'est pour Yoel Armia, c'est peut-être pour Dvorak ou Savard parce que c'est des joueurs autonomes sans restriction en devenir puis qu'on risque de les vendre au deadline. Mais pourquoi il y en a trois un soir, 19 un autre, puis qu'il y en a trois le lendemain? Je regarderai du côté de Logan Mayhew. C'est pas un hasard si il y en a eu plus hier quand il a joué, puis il a quand même disputé un match honnête, un match correct. J'ai pas le feeling que Logan Mayhew va rester longtemps à Montréal. J'ai pas d'infos béton. J'ai des whispers, j'entends des petits trucs. J'ai pas le feeling que Logan Mayhew va rester à longtemps à Montréal.
Et rappelez-vous, Logan Mayhew est un choix de l'ancienne garde également.
Moi, je vous dis, les gars, Logan Mayhew, connaissant Verbeek, ça ne me surprendrait pas que c'est en Anaheim dans une transaction pour Zegras.
Ouais, là,
Verbeek,
il
veut une équipe plus rough, plus tough.
On sait que Zegras est sur le bloc et qu'on serait à la recherche d'un défenseur là, du côté des Ducks d'Anaheim.
Puis des contrats comme Zegras, oui, c'est lourd, mais avec le plafond qui va augmenter énormément, qui va exploser, les équipes qui peuvent se le permettre.
Puis il reste juste une année là, à Zegras aussi. Là, t'sais.
Ouais. Exactement. Il baissera pas de salaire après, il tombera pas à 2 millions, mais
non,
oui, je comprends.
Non, mais au moins, ça te laisse. C'est pas comme un contrat à long terme comme Cousins à 7 millions pendant 6 ans. Là,
mais moi, je l'aime, Dylan Cousins. C'est
moi aussi, je l'aime.
Mon petit côté, j'aimerais tellement
Max,
le voir débarquer ici.
Je l'aurais fait hier, je me faisais lancer des tomates par Georges. J'ai dit oui, je le ferais, moi, Dak pour Cousins, je le ferais.
Mais
après, je donnerais pas cela.
Dak, ils vont dire non.
Mais oui, c'est ça que j'ai dit. Max, c'est ça que j'ai dit à Gonzo. On peut pas faire une transaction qu'on donne du bois mort puis ils vont accepter ça.
C'est pas du bois mort. Ce que je te disais, c'est que eux, s'ils veulent l'échanger, Dylan Cousins, c'est parce qu'ils veulent aussi pouvoir donner le contrat.
Ouais, mais
on était d'accord que ça prenait Dak et
mais
un quelque
vont,
chose.
Avec, ils vont te demander Slav. Big, c'est avec, un gars comme Slav qui vont te
big,
demander.
Avec quatre ouais. équipes qui sont sur le marché, les équipes vont donner bien plus que Dak.
Regarde
avoir,
les équipes qui sont dans le deal. La seule équipe qui a quelque chose avec qui transiger, là, c'est Vancouver. Le reste, Toronto, que tu vas donner. Houston Cowan?
Ils vont donner quoi de mieux que Dak. Je te garantis.
Je comprends, mais les équipes qui sont là, ce pas les équipes qui sont les mieux nantis pour des espoirs non plus. Fait qu'on verra. Comme je t'ai dit, moi, après, si tu me reposes la question, tu me dis, ah, les Sabres, ils veulent Goulet ou ils veulent Slaff. Ben, OK, merci, non, merci. Puis on passe à un prochain appel.
C'est nous qui choisis de dire qu'on donnerait Dak pour.
Ben, parce que c'est le morceau, mettons, où tu te dis.
Ou que ça serait mieux pour le CH à faire, ouais, mais pas mieux pour les Sabres.
Non, mais c'est un échange de points d'interrogation aussi pour les deux équipes, tu comprends? Ouais,
mais les Sabres, s'ils abandonnent Cousins, les gars, là, s'ils abandonnent Cousins, c'est comme quand les Hawks ont abandonné Dak. C'est que ça veut dire que pour eux, 23-24 ans, c'est déjà trop vieux. Ils réalisent que Colin, on fera pas essayer encore à très, très, très court terme, puis on veut recommencer avec des gars de 18, 19, 20 ans. Dak est déjà vieux pour leur projet. C'est pour ça qu'ils vont demander un choix de première ronde. Hein.
Je pense pas, Max. Je suis désolé, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense que les Sabres, ils en ont déjeuné, dîner, souper, des reconstructions. Puis s'ils échangent Dylan Cousins, ils vont vouloir de l'aide tout de suite. C'est pour ça qu'on entend Elias Pettersson, qu'on entend des joueurs.
Ouais, mais
on peut recommencer une autre reconstruction.
Tu viens de donner Elias Pettersson, puis après ça, tu vas nommer Dak.
Ah, c'est complètement différent, là.
Complètement différent, j'espère.
Mais c'est sûr, c'est complètement différent.
Elias Dak.
Oh, ouais, mais attends, quand on parle de Pettersson, il y a du Bowen Byram, puis il y a d'autres noms là-dedans aussi. On a des éléments qui sont bons partout chez Buffalo, là. Des jeunes
éléments
un peu partout.
C'est quand la dernière fois qu'ils ont fait les séries? Là, c'est...
13 ans?
Je sais que c'est loin, là, mais...
13 ans, je pense. Ouais.
Hey Max, pour finir, c'est quoi le gars qui a tué les frères Goodreau, il a un manque de respect incroyable?
Ah, juste, j'en reviens pas. Je lisais ça. Je pensais que c'était une fake news, puis ça ne l'était pas. Dans sa défense, là, Sean Higgins, qui a frappé Johnny Gaudreau et Mathieu Gaudreau, qui sont décédés, via son cabinet d'avocat, a sorti je sais pas pourquoi, pour bien se faire pas, j'ai aucune idée, mais a sorti le taux d'alcoolémie que son client avait. Donc, Higgins avait 0,087%, donc il était sous au volant de sa voiture. Et ils ont été dire qu'il était moins sous que Johnny Gaudreau et Mathieu Gaudreau, qui étaient à 0.129 et 0.134. Si je me fais pogner en vitesse l'autoroute, je vais pas dire, ouais, mais l'autre, tantôt, il a roulé plus vite que moi, ferme ta gueule. Tu sais, déjà que tu t'es pas.
C'est leur défense. C'est ça.
Ben c'est un élément qu'ils ont tenu à rendre public, peut-être pour influencer l'opinion publique.
Ben ouais.
Peut-être que ça fait partie de leur défense, mais ça n'a pas de sens de dire « Hey, mon client était moins sous que les gars sur le volant, que mon client a frappé en dépassant par la droite comme un fou. » J'en reviens pas. C'est un manque de respect. Pense à la famille qui entend ça. Pense aux amis. J'en reviens pas. Je pensais que c'était faux et ce n'est pas faux. C'est vrai. Je suis à terre.
Ouais.
Complètement à terre.
Merci, Mac. Très,
merci
très
beaucoup,
intéressant.
Max. Yes, sir, Max.
Salut, guys.
Merci, Ciao. Babe.